Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoforum sur Radio Galère. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 88.4 dans l'émission Écoforum, je le répète, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie et de la solidarité. Vous pouvez nous poser vos questions ou intervenir au 04 91 08 28 10. Et je finis par préciser que cette petite émission sera rediffusée demain matin, jeudi 20 octobre, de 9h à 10h. Le podcast sera aussi disponible sur radiogalère.org dans la rubrique Écoforum. Je suis Suzy, comme chaque semaine maintenant. Je suis accompagnée de Jade ce soir.
Bonsoir.
Et de Marin, qu'on Bonsoir. Accueille aujourd'hui dans l'émission, qui va nous faire des petites chroniques de temps en temps sur des sujets et des thèmes autour de l'écologie. Voilà. Donc on va discuter un petit peu ce soir autour de l'écologie populaire. Bonsoir Marin, merci.
Bonsoir Suzy, bonjour. Bonsoir Jade.
Bonsoir.
Du coup, je vais te laisser introduire un petit peu ton sujet, je le rappelle, qui est autour de l'écologie populaire. On t'écoute, Marin.
C'est ouais. toi qui... Alors, ce sujet, le but là, c'est de faire un peu un retour d'expérience et d'entraîner des discussions autour de ce que ça peut signifier. On ne va pas être là à donner un cours ou à dire ce qu'il faut faire ou comment il faut penser. Donc on va vraiment entraîner un débat sur ce sujet-là avec Suzy et Jade. Et comme le disait aussi Suzy dans la présentation, tout auditeur et toute auditrice qui souhaiterait participer peuvent bien évidemment le faire pour qu'on puisse échanger sur ces retours d'expérience et essayer d'être juste. Je vais un peu présenter les différents points qu'on va aborder ce soir autour de ça. La première, ça va être un point autour de la question de la confiance et vraiment de s'imprégner, de s'ancrer dans les problématiques locales d'un territoire pour ne pas être complètement déconnecté. Donc on parlera de ça juste après. Le deuxième point, ça va être vraiment de chercher à créer des liens entre les initiatives qui existent pour vivre mieux et vraiment mettre le lien social au cœur. Le troisième point, ça sera autour du fait d'incarner ces projets pour qu'on puisse aller au-delà. Et enfin, on fera peut-être quelques petites invitations à rester humble parce que ce n'est pas clé en main avec plein de solutions qui sont facilement adaptables. C'est toujours le fait de tester, d'apprendre, parfois d'échouer, de recommencer. Donc je vous propose qu'on débute avec ce premier petit point qui est sur la question de la confiance. Et donc là, Jade et Suzy, n'hésitez pas à me couper à tout moment pour qu'on puisse vraiment entrer dans ce débat-là.
On n'hésitera pas, Marin.
En fait, le retour d'expérience que je fais, c'est que l'année dernière, j'étais en service civique dans les quartiers nord à Félix Piat, pas très loin d'ici, autour de la question de la transition environnementale et également en colocation solidaire avec la FEV, où ce sujet a aussi été au cœur. Et vraiment, une des premières choses qui m'a marqué, c'était le fait d'éviter d'être complètement hors sol. L'environnement, la question de l'écologie, c'est souvent perçu comme quelque chose un peu de CSP+, de bobos, de jeunes qui sont bien éduqués, qui ont reçu une éducation avec des diplômes assez importants, alors même que ça concerne absolument tout le monde, mais que ce n'est pas toujours perçu comme ça. Et donc, ça invite déjà à une remise en question dans notre propre approche de ce sujet-là. Il ne faut pas arriver sur le territoire et dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ramasser comme ci, il faut ramasser comme ça, vous ne faites pas les choses pas bien. Sinon, on va vite paraître comme des ovnis qui sont des donneurs de leçons qui peuvent paraître un peu insupportables. D'autant plus que, de façon générale, les catégories de personnes qui ont un impact le plus important sont celles qui sont les plus aisées, à travers leur mode de vie, mais également par les emplois qu'ils peuvent occuper, qui, eux, peuvent derrière diriger des millions vers des activités qui sont plus ou moins importantes en termes d'empreinte carbone et d'empreinte sur la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est la question de la confiance qui existe vis-à-vis du monde politique et des institutions qui est souvent un peu érodée. Lorsqu'on arrive et qu'on parle d'environnement ou qu'on parle de politique, c'est quelque chose qui peut être assez mal vu parce que souvent on va être considéré comme le politicien qui arrive en période électorale et qui va distribuer son tract, qui dit il faut faire ci, il faut faire ça avec des grands speeches. Et ensuite, dès que les élections sont passées, c'est terminé, on remballe tout et on ne voit plus personne pendant quelques années jusqu'à ce que ce petit cirque recommence. Donc il y a cette distance qui s'est érodée et qui font que les termes sont très importants vis-à-vis de ça. Et une des façons les plus importantes, je pense, pour vraiment avoir cette confiance, c'est déjà d'écouter, d'arriver, de demander aux gens comment est-ce qu'ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur quartier, comment est-ce qu'ils verraient les choses autrement, si eux, ils avaient la possibilité de le faire, et on en reparlera après, qu'est-ce qu'ils feraient. Parce que c'est les personnes qui habitent dans ces quartiers-là qui finalement sont celles et ceux qui connaissent le mieux les problématiques et qui ont parfois des solutions. Simplement, peut-être qu'il manque un petit lien, un petit étincelle pour que les choses passent à l'action. Et donc voilà, déjà, si on a envie d'aider, c'est cette chose-là. Il y a d'abord s'imprégner pour ne pas être hors sol, et puis tout simplement par respect. Si on ne se sent pas respecté, si on a l'impression d'être un peu pris de haut par rapport à ces sujets-là, on va dire « Ouais, bah, t'es gentil, mais bon, t'arrives de nulle part, t'es un bobo qui fait atterrir ta soucoupe volante dans mon quartier. Qu'est-ce que tu souhaites ?» Donc là, je vous laisse...
Oui, donc dans un premier temps, finalement, c'est de s'imprégner du lieu, de l'observer peut-être, d'être à l'écoute des résidents, des riverains, pour finalement pouvoir apporter son argumentaire ou en fait ses petites informations, ou du moins pour faire soulever des informations et derrière pouvoir en parler en collectif, quoi.
Mais comment on établit ce lien, finalement ? Parce que effectivement, tu dis qu'il y a un manque... Il y a un manque d'engagement parce qu'il y a un manque de confiance. Donc comment tu établis une relation de confiance ? Enfin, vous l'avez un petit peu vu dans ton service civique. Je sais qu'on a reçu une cité il y a quelques semaines, c'était avant l'été, au mois de juin, sur la mission médiataire et d'autres missions qu'ils ont. Donc si tu peux nous parler un petit peu de cette méthodologie d'action et de dialogue, en fait, de mise en place de ce dialogue.
Alors, je donnerai plusieurs pistes. La première, c'est que... un territoire sur lequel il n'y a aucune initiative qui existe déjà, je suis pas sûr que ça existe beaucoup. Il existe des associations, des organisations, des institutions qui sont déjà implantées, qui font déjà du travail qui souvent est remarquable, qui souvent même mérite d'être largement mis en avant et soutenu. Donc arriver en disant je vais faire la révolution parce que tout ce qui existe ici depuis le début, c'est à revoir, c'est pas forcément la bonne méthode. Donc il y a ça, il y a vraiment là, tout à l'heure tu venais de me demander comment on a fait avec le service civique. Et bien moi j'étais dans le centre social de Saint-Mauron où vraiment on a pu être accueillis et soutenus par les éducateurs du centre qui ont été un peu comme des passerelles entre nous qui étions en service civique dans le quartier et les jeunes qui étaient dans le centre, qui au début nous regardaient un petit peu en se disant mais qui êtes-vous? Voilà, ils ne nous connaissaient pas et c'est bien normal. À partir du moment où il y a eu cette mise en contact, ça a été plus facile. Donc ça, c'est peut-être une première piste. La deuxième piste, le service civique, c'était quand même bien utile parce que c'est pas politisé, derrière il n'y a pas d'enjeu économique, on est jeune et on est plein de bonne volonté, donc on est assez souvent bien reçu quand même. Peut-être que si jamais on peut avoir une étiquette de telle ou telle partie, telle ou telle organisation, derrière les gens peuvent regarder en disant bon, c'est pas tout à fait gratuit, ça peut être intéressé. Il y a ça. Un autre enjeu, c'est d'écouter et comprendre. Et je pense aussi d'incarner, que les gens sentent qu'on n'est pas là uniquement pour...
pour avoir des belles paroles.
Voilà, pour les belles paroles ou simplement pour être de passage et oui, de repartir.
Donc montrer l'investissement, c'est aussi une piste de... pour construire ce lien de confiance, ouais. C'est ça.
La sincérité. Et puis, on en parlera juste après. Il faut savoir que là, quand il s'agit de créer un lien de confiance, c'est simplement nous pour nous aider à rentrer dans cet écosystème. On n'est pas là à dire, et hop, et j'arrive, et je vais tout vous donner clé en main, parce que c'est pas comme ça que ça va se faire.
Oui.
Peut-être que la seule chose qu'on peut... Enfin, la seule, non, c'est pas la seule, mais une des choses qu'on peut faire, c'est juste ensuite donner un petit déclic, un petit conseil, dire, ah tiens, regardez, vous avez vu qu'il y avait ça et ça, et si jamais vous les mettiez ensemble, et bah, peut-être que ça pourrait marcher. Voilà. Et je pense que le fait que les gens puissent sentir qu'on est sincère, que dans nos choix de vie, on n'est pas là, on n'a pas menti, que c'est des choses qui nous prennent par les tripes, que le fait d'être ici, présent, dans ce quartier, alors qu'on pourrait être ailleurs, témoigne de la sincérité de la démarche.
On va écouter un premier morceau On va faire une première petite pause entre toutes tes... dans ta chronique, Marin, pour écouter ce morceau de Patti Smith que j'aime beaucoup. C'est un appel un peu au rassemblement et à l'action. Patti Smith, elle est connue pour ses revendications sociales et sociétales. Et là, c'est un morceau qui a été chanté en live il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, à New York, avec une chorale de 250 personnes, donc qui est très très puissant. Voilà, c'est un morceau qui est assez long, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite.
Dreaming well of an aspect bright and fair, and my sleeping it was broken, but my dream it lingered near in the farm of shining valleys where the pure air rarefied, and my senses a newly opened I will awaken into the cry that the upon the meek, the grace is showered. It's decreed, the people rule. Because the people had their ear, and the shepherds and the soldiers, well, they laid beneath the stars, exchanging visions, laying arms to waste in the dust, in the form of shining valleys where the pure air purified, and the senses.
I'm waking to the cry.
comme dirait Patty, use your voice. Usez votre voix parce que c'est... Bref, moi je trouve que ce message, il est très important et c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer dans l'émission. C'est ce que Marin essaye de nous dire aussi ce soir, c'est d'établir le dialogue, de discuter. Voilà, et que c'est les gens qui ont le pouvoir, hein, comme dirait Patty, voilà, Patty, la grande Patty. On peut passer à autre chose que ma fangirl attitude sur Patty Smith. Marin, je te laisse poursuivre sur ta petite chronique. Je te laisse de nouveau la parole.
Tout à fait, et la vôtre également. Et tout à l'heure, du coup, on parlait de la confiance. Et on peut peut-être finir sur un petit exemple de terrain, de comment est-ce qu'on a pu créer de la confiance. En service civique, par exemple, l'année dernière, on a fait une grande fresque du quartier idéal de Félix Piat Saint-Mauron. Et on voulait du coup représenter sur un mur d'un jardin partagé du centre social ce que pouvait être ce quartier qui soit à la fois sobre, résilient, joyeux, heureux. Donc on avait cette idée en tête, mais on n'avait pas envie que ça soit quelque chose qui soit... fait par nous-mêmes, mais que ça soit quelque chose où tous les citoyens et les jeunes pouvaient se les approprier pleinement. Et donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord on est allé faire du porte-à-porte auprès des habitants, on leur a demandé quelles étaient leurs attentes, comment est-ce qu'ils voyaient le quartier, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qui était un peu à améliorer. Et donc là il y a eu un vrai travail où on a pu avoir de la maturation de leurs approches. Ils étaient aussi contents de savoir qu'il y avait des jeunes qui s'y intéressaient, alors même qu'ils ne venaient pas d'ici, etc. Ensuite, il y a eu le centre social qui nous a beaucoup aidés, qui nous a mis en contact avec les différentes associations qui existaient déjà sur le terrain. Et c'était fantastique de voir qu'il y en avait énormément. Il y avait l'atelier Méta 2, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous a aidés à avoir toute l'approche artistique. Puis il y a eu l'Adaptress qui nous a aidés à trouver des financements pour trouver de la peinture. Et ensuite, le centre social avec qui on a fait des ateliers avec les enfants. Donc au total, c'est presque 50 personnes qui ont été mobilisées pour faire cette fresque. Et donc déjà, il y avait quelque chose d'assez joyeux de pouvoir la faire. Et surtout, ça a permis de faire en sorte que tout le monde soit un petit peu impliqué, tout le monde a mis un petit peu la main à la patte. Et dans l'ensemble, c'était un lien de confiance qui était créé autour de tout ça, surtout sur un sujet qui est assez consensuel finalement. Et ça m'invite à rentrer sur le deuxième grand point que je voulais aborder, qui est le fait que on peut vivre mieux grâce au lien social et que quand on parle d'environnement, d'écologie, en fait, si on s'interroge à ce que c'est que l'environnement, c'est ce qui nous environne, donc c'est ce qui nous entoure. Et c'est pas uniquement le fait d'avoir à jeter des choses dans la bonne poubelle pour que ça soit propre, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Ce sont les écosystèmes qui sont à la fois naturels ou de biodiversité, puisque même quand on emploie le mot naturel, finalement, on se met à distance du reste du vivant. Et nous, en tant qu'êtres humains, quelles sont les interactions qu'on crée pour vivre bien et donc avoir un écosystème qui soit équilibré où la majorité de nos besoins existentiels, donc se nourrir, se loger, se mouvoir, avoir accès à la culture, etc., on puisse répondre à ces besoins-là. Et donc ça c'est une façon d'aborder ces enjeux où on va coller l'étiquette écologie ou environnement, alors que tout simplement, on peut l'aborder sur comment est-ce que dans le quartier, on vit de façon harmonieuse. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit un quartier où il fait bon vivre, tout simplement. Et donc là,
qu'il y ait moins d'inégalités, parce que finalement, il y en a certains dans un quartier qui peuvent très bien vivre et d'autres beaucoup moins bien. Donc c'est aussi créer peut-être une harmonie, c'est d'effacer un petit peu les inégalités, même si c'est assez utopique, parce que les inégalités, il y en aura... toujours malheureusement, mais c'est peut-être sur ce point-là que tu voulais aborder les choses, quoi, parce qu'au final c'est vrai que l'environnement, dans les quartiers souvent et toute la culture on en a, le bien-vivre on peut en avoir, mais c'est surtout que c'est pas forcément pour tout le monde, quoi, on va pas le retrouver au niveau de toute la population.
Ouais, et pour parler des inégalités, alors il y a des choses qui parfois nous dépassent, qui font que nous, à notre petite échelle, peut-être que ça peut parfois être compliqué de se dire on va lutter contre les inégalités économiques alors que c'est des structures qui sont gigantesques. En revanche, inviter chacun et chacune à être responsabilité et prendre sa part dans cet écosystème qu'on va construire, en disant bah, moi je vais travailler sur les questions de lien social, moi j'ai envie de faire des choses qui ont lieu avec le domaine culturel, d'autres qui vont dire bah tiens, si par exemple dans ce lieu on va créer une ferme urbaine avec des gens du quartier qui vont participer à la ferme et qui donc du coup vont avoir une activité pour certains et certaines qui sera rémunérée, pour d'autres ça ne le sera pas, mais quand même une activité qui crée de l'animation, qui fait ensuite que bah, ces légumes et ces fruits qui poussent ici, derrière ça peut permettre de réduire la facture en fin de mois, puisque c'est la nourriture qu'on n'est pas obligé d'acheter dans des magasins. Ça transforme les rapports. Et donc chacun a sa place dans cet écosystème-là. Et là où il y a sans doute moins d'inégalités, c'est que puisqu'on arrive dans un rapport d'interdépendance à l'échelle d'un territoire, où du coup tout le monde a sa place et tout le monde est essentiel comme tous les autres, eh bien, il n'y en a pas qui... Ça, c'est dans le monde idéal, hein, mais il n'y en a pas qui sont fondamentalement exclus de ça, puisque tout le monde est une pièce essentielle de l'édifice.
Mais moi, j'ai... Enfin, c'est très beau de dire que... Et c'est une vision que je partage, hein, de dire que l'environnement et l'écologie et la durabilité, au final, c'est de construire un écosystème qui fonctionne, où chacun a sa part. Mais est-ce que vraiment tu penses que c'est possible dans la société d'aujourd'hui, avec les dynamiques qu'on a et les personnalités aussi de... Quand je parle personnalité, c'est les différents... types de personnes, les différents intérêts dans la vie, les différents... Enfin, est-ce que vraiment, selon toi, c'est possible de construire cet écosystème humain équilibré qui fonctionne ?
Bah, ce qui est beau avec les intérêts, c'est qu'ils sont multiples, mais il y a des choses dans lesquelles je suis nul, il y en a où je suis fort, et inversement, peut-être que toi, t'es forte là où je suis pas bon, et tu vas avoir des lacunes là où je vais être fort, tu vois. Et à 2, à 3, à 10, 100, et ben on va pouvoir se compenser. Donc chacun trouver un peu sa place là-dedans. Donc le fait qu'il y ait une disparité, enfin une grande diversité même d'aspirations et de désirs, etc., ça me semble pas trop un problème. Peut-être que ce qu'il est, c'est de croire que c'est possible et de commencer à se dire, en fait, si... Eh bien, on va commencer. Donc, et c'est là où peut-être que nous, en tant que personnes extérieures qui arrivons dans un quartier qui n'est pas le nôtre, on peut dire mais si, regarde, en fait, on commence. Et ensuite, on a été peut-être qu'une étincelle qui fait que tout d'un coup, il peut y avoir un mouvement qui se crée autour de ça. Mmh. Et c'était quoi la fin de ta question ?
C'était est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir un écosystème équilibré, sachant que en fait, nous, on est sensibilisés déjà. On vient, on parle de ces choses, on a envie de porter des voix, on a envie de porter des opinions, on a envie de changer de changer les choses et de faire évoluer la société dans laquelle on vit vers une société plus durable et plus égalitaire aussi. Donc, tu parlais d'inégalité tout à l'heure, d'essayer de les réduire, voire de les supprimer. Mmh. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent ou alors qui peut-être juste ne sont pas sensibilisés. Mais donc de notre point de vue, tu vois, c'est une jolie utopie selon moi de se dire que c'est possible. Mais est-ce que ça l'est vraiment dans le sens où il y a des gens forcément qui vont pas s'en moquer, mais peut-être un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une question qui vraiment parfois me taraude un peu parce que je me dis, je croise quelqu'un dans la rue, je vais le voir jeter son mégot par terre. Mm-hmm. C'est une question qui peut-être n'a rien à voir et qui est toute bête, mais est-ce que cette personne-là, elle le fait parce que quoi ? Elle a la flemme de trouver une poubelle, parce que 2, elle n'est pas sensibilisée à l'impact que ça a, ou parce que 3, elle s'en fiche. Tu vois, donc c'est... C'est là ma question qui est un peu...
Alors, là, je vais donner mon point de vue. Je ne sais pas si ma réponse sera exhaustive. Avec plusieurs axes. La première partie de réponse, c'est que une personne aisée, consciente ou non, de ces enjeux-là, a un impact qui est beaucoup, 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 beaucoup plus important qu'une personne non aisée, qui, soi-disant, s'en fiche. Parce que dans le mode de vie, parce que dans les travaux qu'on exerce, on est dans le mode de vie, une personne qui est moins aisée va de facto peut-être utiliser moins de voitures, voyager moins loin, prendre moins l'avion, etc., qui clairement fait que l'impact sera moindre. Mmh. Et ensuite, dans le travail, j'ai pas envie de donner des exemples, mais il peut y avoir, si je travaille dans une banque et que derrière, si je travaille dans une banque et que derrière, je flèche des millions d'euros qui vont aller vers de l'énergie carbonée, eh bien derrière, ça va avoir un impact dit de système qui peut être colossal. Et ça, je peux derrière y aller avec mon vélo, je peux trier mes déchets, je peux acheter bio, je peux me mettre dans des circuits courts. Si derrière, dans mon travail, je fais ça, mon impact sera infiniment supérieur à une personne qui s'en fiche, mais qui a un travail qui n'a strictement aucun rapport dans ce fléchage-là. Donc ça, c'est la première chose, sachant que du coup, c'est les personnes aisées qui doivent descendre. Ce n'est pas forcément des personnes qui viennent de milieux populaires.
Puis attention, les personnes aisées, elles polluent tout autant, même en dehors de leur travail. Hein,
oui.
Voilà, donc enfin, moi, je vois plein de personnes qui jettent leurs mégots. Enfin, si on veut reprendre cet exemple, voilà. C'est vrai que je trouve que pour apporter aussi une contribution sur ce sujet-là, c'est vrai qu'au final, dans les quartiers, si on parle de quartiers ou de quartiers pas forcément populaires, juste des quartiers, c'est que tout ça, ça crée du lien. Et les communautés, elles ont toujours existé. Donc, je pense que de créer du lien, ce sera... Alors, effacer les inégalités, peut-être pas, mais je pense que les gens, ils ont ce besoin, finalement, de se retrouver, de s'entraider. On l'a vu aussi avec le contexte actuel où finalement, quand tout le monde se retrouvait angoissé chez soi, bah, les gens finalement, ils faisaient coucou par la fenêtre, ils se retrouvaient en bas dans le jardin, ils se retrouvaient au supermarché. Et donc du coup, c'est des choses qui se créent naturellement, un collectif qui se développe au sein même d'un territoire. Donc je pense que ça, c'est pas non plus nouveau, quoi, en fait, finalement. C'est des choses qu'on retrouve naturellement. Et je pense que, en fait, si on responsabilise chacun on le responsabilise sur sa part, bah voilà, toi tu feras ci, toi tu feras ça, enfin, même au final dans les grandes tours, en écoutant une fois une interview sur toute une famille quartier, en fait finalement tout le monde s'entraide pour les enfants, si on a trop de goûter on va se le passer, un tel va faire des courses, on va s'entraider, je vais aller récupérer moi aussi des packs d'eau pour ma voisine. Et en fait, des fois, il y a des collectifs comme ça qui se développent et finalement qui sont hyper teintés dans l'économie sociale et solidaire, en fait. Ils sont là-dedans,
petit,
quoi.
Je t'interromps, Jade, un petit disclaimer quand même. Quand je disais quelqu'un qui jette son mégot, je donnais pas de visage à cette personne-là, soit quelqu'un qui vienne d'un milieu ou d'un quartier un peu défavorisé ou d'un milieu ou d'un quartier aisé. Non, c'était monsieur tout le monde qui va jeter son mégot sur la route. Ce que je voulais dire aussi et rebondir là-dessus, c'était ce dont tu parles finalement, c'est la confiance, et c'est faire aussi confiance, je pense, c'est se faire confiance à soi-même et à son pouvoir d'action, c'est aussi faire confiance à son prochain, et c'est aussi malgré tout, je pense, les instances qui décisionnaires manquent un peu et ne font pas assez confiance aux gens, c'est-à-dire à la population et à tout un chacun. Et ça va m'aider à faire la transition sur la petite deuxième musique qu'on voulait faire passer ce soir, qui va faire partie de notre discours et de la chronique de Marin, qui est Imagine de John Lennon. C'est vraiment faire confiance et se dire qu'on peut imaginer des choses et qu'elles peuvent devenir réelles quand on y croit vraiment. C'est un peu utopique, hein, c'est un peu cuicui les petits oiseaux, on va pas se mentir parfois, mais moi je crois vraiment des gens et au pouvoir de l'imaginaire, et ce dont on va parler juste après la pause du coup avec Marin dans la suite de son discours. On écoute d'abord John Lennon, on reste dans la vibe des années 70 et on se retrouve après.
Imagine there's no help. sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country that isn't hard. Kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not.
On est de retour sur les chroniques de marins dans l'émission Écoforum sur Radio Galère. Vous pouvez toujours intervenir dans la dernière partie de l'émission, je le rappelle, au numéro 04 91 08 28 10. Si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez juste intervenir sur ce débat autour de
intervenez,
voilà,
n'hésitez
autour,
pas.
Voilà, autour de l'écologie populaire. En attendant les éventuelles questions, je ne sais pas si elles arriveront, mais on ne sait jamais. Marin, je te repasse la parole pour la dernière partie de, ouais, de ta chronique.
Et avant la dernière partie, je voulais conclure ce qu'on se disait juste avant cette petite pause musicale. Effectivement, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais, Jade, sur la partie de la responsabilisation. C'est important de, finalement, que chacun comprenne quel est son rôle dans la communauté. Et que, en fait, puisque le but est d'atteindre un équilibre, eh bien, on peut dire, moi, j'ai envie d'être responsabilisé pour m'occuper des enfants, j'ai envie d'être responsabilisé pour proposer un concert, j'ai envie d'être responsabilisé pour m'occuper du jardin, j'ai envie d'être responsabilisé pour m'occuper des personnes âgées. Et où, à l'arrivée, le mot environnement, écologie, cette étiquette disparaît, mais on arrive strictement au même résultat, qui est le fait que, dans le quartier, on vit bien et les liens sont plus soudés. Deuxième chose que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que quand on arrive et qu'on a, de mon point de vue, une approche un peu de dire « moi je suis conscient » et puis dans les quartiers peut-être que parfois c'est il pollue, etc. Il peut y avoir parfois un peu de condescendance par rapport à ça, parce que on peut être conscient mais avoir le mode de vie qui peut être le plus polluant, et ce sont les personnes les plus aisées qui doivent redescendre sur Terre plutôt que de considérer que ceux qui ont un impact qui est bien moins important, eux doivent faire les efforts en priorité. Il en va déjà d'une certaine décence, parce que là, il y a une question d'injustice, de dire, mais attendez, c'est vous qui avez pollué le plus, et c'est vous maintenant qui nous donnez des leçons. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une forme enfin, il faut que ça soit acceptable et que ça soit enviable, ce chemin-là. Quand on regarde la pollution, enfin, l'empreinte sur la biodiversité et sur le climat par pays, les pays développés, dont la France, font partie de ceux qui ont l'empreinte la plus élevée. En France, pour rappel, il faudrait passer de 12 tonnes par an à 2, si on voulait respecter les accords de Paris, on en est loin. Alors que, si on prend l'exemple de l'Inde, un Indien a, enfin, c'est une terre. Pour un Indien, c'est une terre. Donc l'Inde est un pays qui est équilibré, par exemple. Et si on va dans des pays...
Sur la globalité, parce que...
Sur la globalité, c'est, mais c'est ils sont un milliard et quelques.
Oui, et puis sur le milliard, il y a peut-être 500 millions qui ont une demi-terre, et puis 500 millions qui ont une terre et demie. Je fais un 50-50 parce que je ne connais pas les chiffres, mais l'Inde est quand même un pays qui est très, très disparate en termes d'accès aux ressources. Et, voilà. Donc, faut aussi, faut toujours temporiser. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, on regarde en termes d'émissions par habitant, et c'est l'outil dont on bénéficie, c'est l'outil auquel on a accès, parce que finalement, on fait une moyenne sur le pays, combien on produit en émissions de CO2, et après, on le divise par le nombre d'habitants. Après, il y a toujours des gens qui produisent moins et des gens qui produisent beaucoup plus, et c'est ce manque d'équilibre-là, justement. Ouais. Qu'il faut aussi reconsidérer et revoir, parce que finalement, pourquoi il y en a qui seraient autorisés et qui auraient, juste parce qu'ils ont de l'argent, le pouvoir d'émettre énormément d'émissions, à contrario de ceux qui, justement, parce qu'ils ont peu de moyens, ne peuvent pas ou juste ne le font pas parce que voilà, ils n'ont pas les moyens.
Ouais, et c'est en ça que là, il y a des imaginaires qui sont à réinventer. Qui sont alors des imaginaires qui doivent s'adresser du coup à différentes on va dire catégories sociales, où il faut qu'il y ait un imaginaire où pour les personnes qui sont les plus aisées, on doit clairement nous inviter à descendre dans ce qui concerne notre impact matériel. Et une fois en fait qu'on s'inscrit dans des réseaux de communs, qu'on met en place de la solidarité, qu'on s'inspire parfois des systèmes D qui peuvent exister dans les pays dits en voie de développement, même si c'est un terme que je déteste, parce que rien quand on s'interroge à ce que c'est quoi le développement, c'est quoi le progrès, au regard de ces critères-là, on peut vraiment les questionner. Y a un imaginaire là-dessus où il faut qu'on atterrisse, à adresser aux personnes qui sont issues de milieux aisés. Et donc parfois, on peut même contrebalancer le rapport en disant, finalement, ceux qu'on regarde en disant « Oui, bah regardez, eux, c'est les classes populaires, ou eux, c'est les pays défavorisés, ou eux, c'est les pays en voie de développement. » Peut-être qu'on a, nous, des choses à apprendre de ce qui se passe là-bas, dans la façon dont ils s'organisent, dans la façon dont ils répondent à leurs besoins. Et il y a aussi un imaginaire qui est à créer vis-à-vis de ces personnes qui sont déjà dans cette situation-là, de se dire que peut-être qu'il ne faut pas avoir accès à un niveau matériel supérieur d'un point de vue individuel. Parce que si jamais tout le monde veut sa voiture, tout le monde veut sa télé, tout le monde veut son frigo, peut-être que ça ne va pas marcher. En revanche, si jamais on reste dans quelque chose qui est un écosystème avec des communs, en disant on a un gros outil technologique mais qui sert à plusieurs personnes, comme ça on peut le réutiliser, puis en même temps on a plusieurs gros outils comme ça qui servent à la communauté tout entière, on a un impact qui est moindre, mais on vit quand même correctement parce que tout le monde a ses besoins qui sont... qui sont répondus, quoi. Mm-hmm. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, Jade, tu parlais beaucoup de « et si ». Et ça, c'est c'est une phrase qui est souvent très puissante, de dire « tiens, et si on faisait si ?» Et si on se procurait... et si, par exemple, on mettait un jardin partagé, une ferme urbaine dans le quartier. Voilà, commençons par ça, puisque c'était ça l'exemple. Et de dire, derrière, ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'espace vert, ça va créer... une aération, ça va créer un îlot de fraîcheur, ça va peut-être créer de la biodiversité, des oiseaux qui vont revenir, peut-être même qu'on va créer une mare, alors du coup il va y avoir de l'eau, et puis ça va inspirer des personnes qui vont dire « Ah tiens, et si du coup autour de cette ferme, eh bien, j'organise un concert ce soir-là parce que j'ai envie de le faire. » Et voilà, et si, puis là ça c'est mes idées, si jamais on commençait à faire une tempête de cerveau à trois, il y en aurait d'autres qui émergeraient, et ainsi de suite. Et c'est en ça que c'est assez puissant. À Marseille, il y a un tiers-lieu qui s'appelle l'Après-M. Si on nous avait dit, voilà, c'est des salariés d'un McDo qui ont décidé de dire on n'est pas d'accord avec les conditions sociales qui existent dans ce McDo-là, on n'a pas respecté ce qu'on nous avait promis, eh bien nous, on récupère le McDo, on l'occupe et on va en faire des colis alimentaires. Et derrière, on va le racheter. Et on va en faire un tiers-lieu, et grâce à ce tiers-lieu, on va pouvoir accueillir des personnes qui sont en recherche d'emploi, on va pouvoir faire de la reconversion, etc. Ça, c'est un imaginaire hyper puissant. Et pourtant, il fallait bien qu'il y en ait au départ qui commence. Et là où c'est fort, c'est que c'est des personnes qui viennent de ce quartier. C'est pas des personnes qui viennent de... d'autres endroits et ils ont créé une brèche dans l'imaginaire et ça a été rendu possible. Et une fois que ça, on sait que ça existe, et bien derrière, c'est d'autres initiatives qui peuvent être essaimées en se disant « Ah tiens, et moi aussi j'ai envie de le faire ».
Oui, parce que toutes ces initiatives, finalement, c'est pour revenir à ta première partie, elles reviennent de tous ces gens qui vivent sur le territoire et qui sont au courant, et qui sont au courant de leurs besoins, qui sont au courant de leur terre, qui écoutent le voisin, etc. Et qu'en fait, en écoutant tout ça et en faisant mûrir et fédérer autour d'un même projet, on se rend compte que collectivement, on arrive à trouver des solutions qui sont extraordinaires, quoi. Et donc finalement, ces tiers-lieux, c'est ça aussi, quoi. Enfin voilà, c'est de pouvoir se retrouver, de créer du lien social et derrière de développer des idées. Je trouve ça super. C'est l'exemple que tu nous donnes. D'ailleurs, il se trouve où ce tiers-lieu
Il se trouve à Sainte-Marthe, dans le quartier Nord.
D'accord, ok. Bon, et donc du coup, tout le monde y a accès.
Absolument.
Voilà, on ira visiter l'après-M.
Voilà, l'arrêt de bus est juste devant. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Des tiers-lieux, il y en a plein.
Je rebondis sur ce que tu dis parce que, effectivement, et je le dis à chaque fois, l'importance de l'imaginaire et le pouvoir aussi de l'idée. C'est-à-dire que, c'est ce que tu disais, tu as une idée, on dit « et si on la mettait en place ?» Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche et ça prend des ampleurs énormes. Ce truc-là de l'après-m, certainement, c'est quelqu'un qui a eu une idée comme ça et qui s'est dit « Ok, on va tenter le coup. » Ça a fonctionné parce qu'il y a un tel qui a apporté le contact dont ils avaient besoin. Je dis « on », mais je ne fais pas partie du projet. Parce qu'un tel autre a dit « Ben moi, j'ai la ressource en termes de personnes ou en termes de compétences aussi, ne serait-ce que pour développer du projet. Mais voilà, le pouvoir de l'idée, c'est quand même... c'est se faire confiance aussi. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est se dire, j'ai une idée, elle n'est pas nulle. On va la pousser, on va voir où elle aboutit. Peut-être elle n'aboutira pas, mais peut-être elle aboutira à quelque chose. Et peut-être qu'elle aboutira à quelque chose, pardon. Ouais, c'était juste pour vraiment donner de l'importance à ce mot qui est l'idée et l'imagination et l'imaginaire, parce que je pense que c'est très important dans ce qu'on vit aujourd'hui et dans les bouleversements qui...
Et si on imaginait un demain meilleur, quoi, futur meilleur, et donc du coup, je pense que là-dessus, on peut développer un imaginaire
Ouais, et il y a l'idée et la contrainte. Et la contrainte est un formidable outil de création, parce que quand on dit on peut pas faire ce qu'on veut, donc on va faire à partir de ce qu'on a ou à partir de telle problématique, alors là les idées fusent on est à plusieurs, ça fuse. L'après-M, c'est né d'une contrainte, à savoir le Covid, des personnes qui n'avaient plus d'emploi pour certains, qui se sont retrouvées à être vraiment dans des situations qui étaient extrêmement critiques. Et c'est à partir de là que d'autres se sont dit « Non, mais c'est pas possible, on va pas laisser ça comme ça. Nous, on est capable de le faire. Et hop, moi, je suis capable. Moi, j'apporte ma compétence juridique. Moi, j'apporte le McDo. Moi, j'apporte le fait que j'ai une association qui est en lien avec des maraudes ou avec des colis alimentaires. Et hop, ça se crée comme ça, quoi. » Et les bouleversements environnementaux qui sont existants et qui vont clairement continuer, on peut les regarder de façon catastrophique en disant « Ok, c'est l'effondrement. » Tout à l'heure, on parlait de récits dystopiques. Je pense qu'il y a des choses par lesquelles on va devoir passer. Il va y avoir des ruptures, des bouleversements, parfois des bascules qui vont être douloureuses. Et en même temps, cette contrainte va nous pousser à nous réinterroger, nous créer des nouvelles choses, créer des liens qu'on n'aurait pas imaginés.
Mais déjà, tout ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'avec le Covid, qui est... Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas en lien avec le changement climatique, le dérèglement climatique, pardon. Moi, je suis intimement persuadée qu'il y a un lien très fort. Ça, c'est un avis personnel. Mais déjà, avec le Covid, on a déconstruit beaucoup de choses. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'aspects de notre fonctionnement en tant que société qui ne fonctionnait pas, tout simplement, qui ne pouvait plus durer parce qu'il y avait des ruptures. Il y a eu des ruptures. Il y a eu des choses qui se sont confirmées, qu'on avait déjà commencé à voir et qui se sont cassées la gueule. Donc il y a eu
je pense que la déconstruction, elle a commencé. Tu vois, elle a commencé pour les gens qui étaient déjà sensibilisés il y a quelques années. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec le Covid, il y a eu un truc qui s'est lancé, qui est un peu plus fort. Mmh. Et c'est ça surtout, c'est déconstruire nos habitudes et nos réflexes en fait de tous les jours, et se dire comment est-ce que je peux faire peut-être autrement pour que ce soit mieux, ou que ce soit au moins un petit peu plus durable dans une société qui en fait est finalement, je parle de société pas en tant que définition, mais ça tient qu'à un fil quoi. Il y a certaines choses qui tiennent vraiment comme ça quoi, qui sont sur le bord de la table et qui à tout moment peuvent basculer, et je pense qu'on s'en aperçoit et on se dit mince, comment on fait pour pas que ça bascule tout de suite quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marin, là-dessus, mais...
Bah, c'est sûr, là, pour rebondir, c'est sûr que le Covid... Alors, l'origine du Covid, on ne va pas en discuter, mais derrière toutes les conséquences que ça a eu sur la société, montre qu'effectivement, tout était dans des réseaux d'interdépendance à l'échelle mondiale et qu'on se retrouvait extrêmement démunis, dépourvus. Et donc, ça nous a permis de s'interroger dessus et se dire, OK, comment est-ce qu'on relocalise ? Et pour aller plus loin, il y a une vidéo qui est sortie pendant cette période-là. Je ne sais pas si vous connaissez Partager, c'est sympa. Ils ont fait la vidéo de ce que pourrait être une société en 2030 qui aurait réussi son basculement. Et ils imaginaient que le point de départ de ce basculement-là partirait des quartiers dits populaires, parce qu'ils n'auraient pas le choix, en disant bah alors là, il y a une rupture d'approvisionnement, je ne sais pas, alimentaire, liée à une rupture énergétique ou une rupture... d'approvisionnement en eau, j'en sais rien, qui font que bah, les gens ont pété les trottoirs, on dit bah, on va planter des légumes à la place de l'ancien trottoir et du bitume, et on fait des trous, ici on a des réserves en eau, et ça se crée parce qu'on n'a pas le choix. Quoi. Mmh. Et donc ces territoires dits populaires, et là je vous ne voyez pas quand vous m'écoutez, mais je fais des guillemets avec mes mains, vont aussi être des endroits où on va devoir créer, parce que peut-être qu'on n'aura pas le choix. Et donc, il y aura des choses à accompagner et des choses dont il faudra s'inspirer. Et donc, dans cet imaginaire-là, ça sera peut-être des précurseurs pour la suite.
On peut finir peut-être sur ce petit rappel que tu voulais faire, qui était quand même de rester un petit peu les pieds sur terre. Sur l'écologie, c'est facile de s'emballer en se disant on a plein d'idées, on a envie de tout changer. Il faut quand même, Victor Hugo, le président de l'association dans laquelle je travaille, dit toujours piano, piano, une chose à la fois, pas trop s'emballer, pas voir trop grand non plus, c'est-à-dire rester quand même dans sa ligne d'action, de pouvoir d'action non plus aussi, parce qu'on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Je te laisse finir là-dessus, Marin, si tu veux bien.
Ouais. Alors du coup, c'était la quatrième partie, mais c'était aussi une conclusion à rester sur Terre, à savoir que ça, c'est des changements qui sont à notre échelle. On révolutionne pas la Terre entière, on révolutionne notre environnement, ce qui est déjà pas mal. Peut-être on révolutionne aussi parfois notre mode de vie et celui des personnes qui nous entourent, c'est déjà beaucoup.
Peut-être que ça, mis bout à bout, ça révolutionnera le monde.
Un peu ça zèle. Peut.
Mais je pense qu'il faut se détacher de cette idée de on va révolutionner le monde et c'est moi ou c'est nous qui allons entraîner le grand bouleversement. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas tout idéaliser. Il se passe des choses très dures dans les quartiers aujourd'hui, demain, par rapport aux bouleversements environnementaux, il va continuer à se passer des choses très dures. Donc là, on essaie d'être positif, de dire oui, on va créer de nouveaux imaginaires, on va pouvoir s'inspirer, etc. Il ne faut pas non plus occulter le fait qu'il y a des personnes qui en souffrent et qui vont en souffrir et qu'il y aura des ruptures et qu'il y aura des basculements. Voilà, il faut le savoir. À partir du moment où on le sait et où on l'accepte, on peut se libérer d'un certain poids. Plutôt que de rester tétanisé par cet enjeu. Et la dernière chose peut-être là-dessus, c'est que effectivement un territoire est un endroit qui est super pour expérimenter des choses, mais ensuite pour ce qui concerne la répartition des empreintes de pollution, il faut savoir que 75% des origines de notre empreinte terrestre sont liées à ce qu'on appelle le système. Donc c'est toutes les infrastructures, c'est les organisations qui ont cette empreinte-là. Nos comportements individuels ne représentent que 25% de cette empreinte. Donc on peut faire ce au mieux pour nous et avec notre communauté, ça ne sera pas suffisant si derrière, ce n'est pas repris à plus grande échelle par ces fameuses structures qui sont les entreprises, les administrations publiques à différentes échelles. Mais c'est là où c'est très puissant, c'est que les imaginaires qu'on peut créer derrière peuvent poser un horizon qui donne envie d'y aller tous ensemble et à plus grande échelle. Mmh. Voilà.
Bon, on retient quand même tout ça et on va quand même finir. Moi, je finis sur cette note de toujours garder les objectifs en tête, garder les pieds sur terre quand même, mmh. mais aussi de ne pas perdre de vue cet objectif qui est in fine quand même la résilience et la durabilité. Donc, voilà, faut garder espoir quand même sur la suite des événements. Il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont se passer, mais on a le pouvoir d'action. People have the power. Imagine, voilà, on peut partir sur plein de choses. En tout cas, ben merci Marin pour cette chronique très intéressante. On se retrouvera sûrement à l'avenir pour d'autres chroniques sur d'autres sujets. Donc, si vous voulez intervenir la prochaine fois ou réagir sur les réseaux. Voilà. Cette émission sera rediffusée demain matin, je le rappelle, de 9h à 10h le 20 octobre. Et puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Jade également et sûrement de Marin peut-être, on verra. Mmh. À bientôt et bonne soirée.
Bonne soirée, merci Suzy, merci Jade.